Introduction, la métamorphose du rapport au travail lié à la bonorisation du monde.
Sophie de Monton, on démarre avec vous, vaste sujet. Hein. Déjà, c'est vrai que vous avez voulu ce colloque éthique le faire sur l'affect. Pourquoi on a besoin d'affect en entreprise ?
Alors, l'idée m'est venue, en fait, j'avais vu qu'il y avait des fêtes de tout d'ailleurs, je pensais fêter l'entreprise, mais je cherchais la façon de fêter l'entreprise, parce qu'on avait tendance à se dire c'est l'endroit où on apprend, où on se cultive, où on gagne de l'argent. Et je me disais, c'est pas ça, je le sens pas comme ça. Et un jour, j'avais des centres d'appel et j'avais une grève. Ça ne vous étonnera pas. J'avais une grève.
C'est d'actualité.
C'est d'actualité. Et j'avais des téléacteurs qui faisaient grève, etc. Puis je rentre, je vais à mon bureau. Les mêmes qui faisaient grève. Ah, bonjour Sophie. Avec un grand sourire. Tout le monde avait l'air très content. Je dis, mais ils aiment leur boîte. Hein. Et c'est, tout d'un coup, ça m'est venu à l'esprit. Et je me suis dit, c'est ça ce qu'on va fêter. C'est qu'ils aiment leur boîte. Donc, j'ai lancé ça. Ça a marché tout de suite. Grâce en particulier à Jean-Claude Decaux qui m'avait passé ses panneaux et imprimer les affiches la première année, donc ça a démarré. Et je trouve ça incroyable aujourd'hui, alors que c'est quand même un cauchemar, et justement, un cauchemar pour énormément de salariés, dont Luc qui est venu à pied, le taxi n'est pas venu, moi à vélo, tout le monde rame, ils sont en train de courir dans les rues, et il se pose la question, et comment tu y vas toi demain, etc. Donc il y a un attachement, parce qu'il n'y a pas un patron qui pourrait râler si son salarié ne venait pas. Donc il y a aujourd'hui même, c'est le moment de le dire, qu'il y a besoin d'affect. Et l'affect, c'est le relationnel, c'est aimer ses clients, aimer ses voisins de bureau, aimer son patron, mais oui, il l'aime, mais oui. C'est aimer. Alors maintenant, aimer, il y a plusieurs sortes d'amour. C'est pas non plus le bonheur qu'on cherche dans une entreprise, c'est plutôt un bien-être. D'ailleurs, Luc nous parlera très bien, je pense, du bonheur, qu'on ne trouve pas comme ça. Mais c'est essentiel de le rappeler. Je suis presque très contente que ce soit une catastrophe cette semaine.
Mais c'est presque paradoxal, donc du coup, ce que vous nous dites, c'est-à-dire on aime son entreprise et pourtant ça n'empêche pas.
Ah ben, on y va pas, on veut des augmentations, mais ça n'empêche rien.
Voilà, oui. On peut aimer sa boîte et puis aussi négocier ou discuter avec
mais
le
patron. Absolument, on était ravis et il supplie. C'est devenu un attrait que de proposer des journées de télétravail. Ils veulent du télétravail, ils ne veulent pas être là et ils font des déprimes parce que finalement ils restent chez eux et que la machine à café n'est plus là. Donc c'est extrêmement complexe, mais 67% des Français opinionway interrogés la semaine dernière, ils aiment leur boîte. Qu'on se le dise, la CGT devrait lire le sondage attentivement.
Ah non, mais je pense qu'ils défendent aussi des gens qui aiment leur boîte. Et ça,
c'est
ça
vrai, c'est
pas.
Vrai.
Est-ce que c'est contradictoire pour vous, Luc Ferry, justement ? J'aime ma boîte d'un côté, puis je tacle aussi le patron, où je trouve que voilà, ma condition n'est pas assez bonne. Ou même, je lutte silencieusement, je quitte ma boîte en silence, comme on le voit aux États-Unis. C'est une tendance qui arrive.
Ça dépend des boîtes surtout, je pense. Dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, dans les chauffeurs routiers, il manque des dizaines et des dizaines de milliers de bras, si je puis dire, de salariés. Et donc là, le big quit, comme on a dit aux États-Unis, 40 millions d'Américains ont quitté leur job pendant la pandémie. Et donc en France, ça a été moins, évidemment. D'abord, on n'a pas le même nombre d'habitants en France, mais enfin, ça a quand même été très, très massif. Et donc, on a assisté au big quit et puis au quiet quit. Donc, l'idée, bon, je ne quitte pas ma boîte, mais j'en fais le moins possible. Voilà. Et ça, c'était évidemment très important. Encore une fois, tout dépend de la boîte. Si c'est une boîte sympathique avec un patron sympathique et que les gens sont bien payés, mais qu'en plus, ils ont des horaires aménagés, qu'ils ont des responsabilités, que la boîte a du sens, que le métier qu'on fait a du sens, tout va bien. Mais si vous êtes dans un métier qui n'est pas valorisant, qui est très pénible et qui est mal payé, on quitte la boîte en disant mais je ne vais pas perdre ma vie à la gagner. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça qu'il faut comprendre, parce que ce n'est pas anecdotique. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité que 40 millions d'Américains quittent leur job pendant la pandémie. Pendant la pandémie, les gens ont réfléchi, se sont dit, mais attends, qu'est-ce que je fais là ? Et en fait, il y a une lame de fond. Ce n'est pas du tout anecdotique, ça n'a rien de superficiel, c'est extraordinairement profond. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les grandes idéologies sacrificielles se sont effondrées. Nationalisme, communisme, christianisme. Je vous donne quand même deux, trois chiffres. Le communisme est passé de 30% de l'électorat dans certaines élections, en tout cas 25% à coup sûr, à 2%. le christianisme, 95% des Français étaient baptisés en 1950. Ils sont 30% aujourd'hui. Il y avait 45 000 prêtres en France en 1950. Il en reste 5 000 aujourd'hui. Seulement 45% des Français se disent croyants. Ils étaient 90% dans les années 50. Donc on a un effondrement des grandes idéologies sacrificielles qui nous promettaient le bonheur après, le bonheur différé. Le bonheur, ce serait après la Révolution, ce serait après la mort au paradis. Le bonheur pour les enfants, ce serait après l'école. Le bonheur pour les ouvriers, ce serait après la retraite, où on achèterait une canne à pêche, on s'occuperait de son jardin, etc. Je vais vite. On était dans des grandes idéologies sacrificielles du bonheur différé. Réfléchissez à ça. Ça, c'est le point le plus important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Et c'est trop tard.
À partir du moment où vous n'avez plus l'idée que vous serez heureux après, puisqu'il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de vie après la révolution, c'est pas vrai, il n'y aura pas de révolution. À partir du moment où vous n'êtes plus dans le bonheur différé, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. Et dans ce cas-là, évidemment, il ne s'agit pas de perdre sa vie pour la gagner. Donc si la boîte est géniale, qu'elle a du sens, qu'elle est formidable, que le patron est sympathique, qu'il y a encore une fois des libertés, des horaires aménagés, bon, et puis que peut-être même pour des jeunes d'aujourd'hui, la boîte s'occupe d'écologie ou que sais-je, elle a une mission. Elle a une responsabilité sociale, tout va bien, ça a du sens, on y va. Mais si c'est un métier qui n'est pas valorisé, qui n'est pas très bien payé et qui est pénible, on quitte. Parce que, encore une fois, c'est ici et maintenant.
Alors, d'où réaction quand même. Oui.
L'explosion de la psychologie positive et des théories du développement personnel. C'est-à-dire que c'est ça se vend par millions aujourd'hui dans le monde. Ça nous vient des États-Unis, ça accompagne le Big Quit. Parce qu'encore une fois, c'est ici et maintenant qu'il faut être heureux. Je vais le dire comme ça, je m'arrête là, pardon. C'est la victoire du premier petit cochon sur le troisième dans l'histoire des trois petits cochons. C'est ici et maintenant. Il ne faut pas différer le bonheur comme fait le troisième pour avoir une maison en briques solide et se protéger du loup. Et donc ça, nos enfants, ils sont là-dedans.
Alors, il y a quand même une question. Alors ça, c'est la réaction du chef d'entreprise extrêmement prosaïque. J'ai parfaitement compris ça et je sens bien qu'il y a un vrai mouvement. Comment ils vivent? Parce qu'aux États-Unis, ici, on est super protégés. Je veux dire, on se met au chômage en France.
Pardon, oui, c'est très facile de se mettre au chômage et de gagner à peu près la même chose avec un petit boulot.
On se met en arrêt maladie, etc. Alors, mais aux États-Unis, où on n'est pas protégés, ce Big Quit...
Ou en Espagne, ça en est
beaucoup. Ou en Espagne, où vont-ils? Comment gagnent-ils leur vie?
Alors, oui. Très intéressant, quand on regarde les chiffres, par exemple, à quel âge les enfants quittent la maison des parents?
Plus tard, oui.
Ben attends, au Portugal, c'est 37 ans. En Espagne, c'est 35 ans. Voilà. Donc, il y a des pays... Alors, évidemment, aux États-Unis, ils vont trouver dans la campagne, dans des endroits quasiment désertiques, des petits boulots. On peut travailler au black aux États-Unis, c'est absolument autorisé.
En
plus, c'est même pas illégal. Bon. Et donc, ils vont trouver des petits boulots, ils vont s'installer à la campagne dans des endroits où ça coûte rien, où le coût de la vie est très peu cher. Et ils disent, voilà, bon, c'est un peu thorough, voilà.
C'est vrai.
Donc, on a là vraiment un mouvement. Alors, pour les jeunes, il faut évidemment différencier, parce que pour les jeunes diplômés qui vont sortir de l'SCP, d'HEC, de l'ESSEC ou que sais-je, et eux, ils vont être au contraire, ils vont faire la fine bouche et ils vont regarder l'entreprise, est-ce qu'elle est affectueuse, puisqu'on parle d'affect, est-ce qu'elle est sympa, etc., est-ce qu'elle a du sens, est-ce qu'elle fait de la RSE, etc. Mais pour ceux qui veulent absolument trouver un job, il faut vivre, ça devient très compliqué aujourd'hui.
Et en Grèce, alors il va y avoir aussi...
37 ans, au Portugal, tu te rends
absolument.
Compte.
Voilà. Et en Grèce, je posais la question cet été, dans un restaurant où il y avait un serveur qui devait avoir 60-65 ans. Et je posais la question parce que ça me fascine. Eux aussi, en Grèce, ils arrêtent, ils quittent leur boulot. Alors je dis, mais comment ils vivent? Oh, il me dit, il n'y a pas de problème, il y a des clopes, ils vivent chez les parents, il fait beau, et c'est leur vie. Et là, il y a une colère qui montait de ceux qui, effectivement, ils sont chez les parents. Et ces gens, ce droit à la paresse, il y a des gens qui paient pour ça. Parce que y a de toute façon, ils se font entretenir par la société, tous ceux qui quittent leur boîte. C'est quelque chose d'important. Donc je pense qu'il y aura des réactions.
Surtout en France,
Surtout en France.
Oui.
Ils vivent complètement entretenus là-dessus.
En tout cas, la lame de fond, elle est là. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un mouvement anecdotique, ce n'est pas juste l'année. La pandémie a fait prendre conscience du fait que les grandes idéologies sacrificielles avaient disparu. Dans la psychologie positive, c'est pour ça que j'y fais référence, constamment, dans tous les livres de psychologie positive, il y a un chapitre, se sacrifier travailler pour autrui est une très mauvaise idée. Je cite exactement un chapitre du livre de Fabrice Midal qui s'appelle « Devenez narcissique et sauvez votre peau ». Se sacrifier pour autrui est une très mauvaise idée. On est sorti des idéologies sacrificielles, celles que j'ai évoquées, qui permettaient de se dire « je serai heureux après ». Encore une fois, pour les élèves, c'était après la classe, pour les ouvriers, après la retraite, etc. Je ne vais pas recommencer. Et je pense que ce mouvement de fond, il est lié à la déconstruction des grandes idéologies sacrificielles qui a caractérisé le XXe siècle.
Et par quoi on les remplace alors ?
Là, il y a une idéologie qui a remplacé et qui a envahi tout l'espace politique et spirituel, d'une certaine manière, c'est évidemment l'écologie. Simplement, l'écologie n'est pas une idéologie sacrificielle. C'est une idéologie qui protège la vie. Autrefois, la droite, j'allais dire les choses un peu brutalement lâche, mais c'est la vérité. La droite détestait l'écologie. L'écologie, dans les années 70, c'était une secte d'extrême-gauche, anticapitaliste. Bon, donc droite...
C'est sacrificiel, l'écologie.
Pas du tout, ça sauve la vie.
Actuellement, en France, elle est totalement punitive pour nos boîtes.
Mais punitif, c'est pas du tout sacrificiel, ils sont anticapitalistes. Donc ils trouvent que c'est formidable de punir les boîtes, c'est pas du tout sacrificiel. C'est une idéologie qui protège la vie. Donc elle est peut-être sacrificielle pour toi, mais pas pour les gamins qui crèvent les pneus des bagnoles.
Est-ce qu'on va voir l'émergence d'un écologisme, Luc Ferry ?
Bien sûr. Et donc, ce qui est très frappant, c'est qu'encore une fois, l'écologie maintenant traverse tous les courants politiques, et elle a évidemment remplacé le communisme. C'est-à-dire, pour ça, il y a un livre de Lipietz qui est très intéressant, qui s'appelle « Vers espérance ». Moi, j'ai bien connu Lipietz. On était allés, dans mon jeune temps, on était allés ensemble à Moscou au moment où le mur tombait. Bon, lui était maoïste. Bon. Et le début de son livre, c'est « Je suis arrivé au vert par le rouge ». Il était maoïste et puis il s'est dit « Bon, Maoï, il y a eu 70 millions de morts, on ne peut quand même pas continuer. Et donc, je vais continuer la lutte anticapitaliste par l'écologie. » C'est pour ça qu'on les appelait les pastèques. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. C'est de là que ça vient, oui. Et c'est, voilà. Donc,
c'est
ils ne sont pas
cas,
du
d'ailleurs.
Tout, ils ne sont pas sacrificiels. Au contraire, ils disent il faut sauver la vie, il faut sauver la planète, il faut vivre, il faut être heureux. La psychologie positive et les théories du développement personnel incluent l'écologie. One Health, c'est le grand thème, une seule santé. Santé humaine, santé de la planète, santé des animaux. Voilà. Et donc, ça remplace le communisme défunt. C'est une idéologie très forte, mais ce n'est pas une idéologie sacrificielle.
Est-ce que les sociétés sont emparées, justement, de cet écologisme ? Alors, on sent qu'il y a eu d'abord du greenwashing, et puis aujourd'hui, il y a quand même un mouvement de fond, parce qu'il y a des normes de plus en plus importantes, d'inflation normative, des règlements qui font, voilà, on va arrêter la voiture thermique, on en pense qu'on veut, mais ça va être sans doute
une réalité. Oui, il y a des vraies questions, il y a des vrais problèmes.
Et de toute façon, la solution viendra des entreprises.
Et
quand on est vraiment envie d'écologie, il faut oublier tout le reste. On a, tout à l'heure, on va entendre un chef d'entreprise qui est patron de la Fédération des plastiques. Je veux dire, le plastique, quand on vous dit « Oh, il n'y aura plus de plastique jetable dans un an », c'est n'importe quoi. Les hôpitaux en ont besoin, on l'importera d'ailleurs, etc. Enfin, je veux dire que ce sont les entreprises qui vont trouver à recycler le plastique, à trier les déchets, à prendre à fabriquer quelque chose qui est moins énergivore. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les entreprises, il faut effectivement donner un sens, parce qu'il y a encore autre chose qui, moi, m'a toujours un peu pas exaspéré, mais limite, ils veulent un sens. Oui, je l'ai dit. Ils veulent un sens.
Ça a changé, ça. On a l'impression que peut-être, apparemment, c'est d'avoir un bon job, c'est d'avoir de l'argent.
Non.
Et maintenant, ça change.
Ça fait des années,
le sens. Ouais. Ils veulent, ça avait le projet d'entreprise. Et j'avais des centres d'appel, ils me disaient, et c'est quoi le sens ? Alors, je leur disais, écoutez, d'abord, le sens, il est en vous. On trouve un sens à sa vie, maintenant. Le sens, c'est de venir bosser. Maintenant, tous ensemble, on peut trouver un projet d'entreprise qui soit positif. Enfin, vous êtes une boîte qui fait du télémarketing, on fait du télémarketing. Alors, le sens, cette quête de sens, je trouve effondrant qu'on n'essaie pas de la chercher en soi-même, mais complètement dans les autres. Et, intéressant, on s'est dit dans nos boîtes qu'effectivement, l'écologie, on allait participer, puisqu'on essaie de, non pas de faire du greenwashing, mais de vraiment réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour qu'on consomme moins d'énergie, etc. Mais les mêmes ne veulent pas qu'on baisse le chauffage, ne veulent pas qu'on baisse l'électricité, veulent de la clim l'été, sinon ils ne viennent pas au bureau, etc. Donc il y a une espèce de contradiction incroyable entre une écologie rêvée et quand même un peu de sacrifice. Les mêmes qui sont écolos, ils sont vroom vroom sur des motos.
Et sans smartphone, ils sont morts.
Absolument.
Il n'y a rien de plus polluant qu'un smartphone.
Donc voilà. Je ne sais pas. Alors le sens, qu'est-ce que c'est que donner du sens dans une entreprise ?
Dans les enquêtes d'opinion, c'est très clair. Les jeunes qui peuvent se permettre, c'est-à-dire ceux qui sortent des grandes écoles, qui ont des bons diplômes et qui peuvent se permettre de choisir leur job, demandent que l'entreprise ait du sens sur le plan de la responsabilité sociale. Et l'essentiel, c'est l'écologie aujourd'hui. Ils demandent que ce soit écolo. Moi, ce qui me gêne là-dedans, moi, je comprends très bien que moi, j'ai des amis qui sont patrons de grandes brasseries, notamment la brasserie Les Capucines, qui est formidable, qui est une brasserie vraiment géniale. Ils ont 45 salariés. Et donc, ils ont augmenté considérablement les salaires. L'ambiance est bonne, le patron est sympa, la bouffe est sublime. Bon, mais c'est très difficile de trouver des salariés qui veulent faire ce type de travail parce que c'est, dans la société, à tort, à mon avis, c'est pas valorisé, c'est pas extraordinairement bien payé, etc. Mais voilà, moi, ce que je pense, c'est que par rapport à ce qui se passe en Ukraine, vous verrez le lien, ça paraît du coq à l'âne, mais ça l'est pas. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, l'enjeu de la guerre en Ukraine, les gens, je sais pas pourquoi les gens comprennent, ce qu'ils comprennent pas dans le mot guerre, ils disent tous les jours, ah, c'est affreux, il y a des morts. Enfin, les guerres, en général, c'est un peu le principe. Bon, il y a des crimes de guerre, mais citez-moi une guerre où il n'y a pas de crimes de guerre, ça n'a pas de sens. Bon, ce que nous racontent les médias toute la journée est complètement à côté de la plaque. La vérité de cette guerre en Ukraine, c'est qu'on assiste à la recomposition d'un monde qui sera demain essentiellement chinois, indien et russe. Plus iranien, coréen et quelques autres pas forcément sympathiques parce qu'ils nous détestent. Ils détestent les valeurs occidentales. Et par rapport à ça, on le voit aujourd'hui en Iran. On n'aura pas besoin de regarder son nombril en disant « comment je peux faire pour être heureux ?» On aura besoin de travailler plus que jamais et on aura besoin aussi d'esprit, malgré tout, de sacrifice pour défendre les valeurs qui sont les nôtres. Ce que pense Poutine, c'est qu'on est effondré dans le déclin. C'est ça qu'il pense. Il pense la même chose que mon ami Michel Onfray ou Alain Finkielkraut. Il pense qu'on est déclinant, qu'on n'est plus capable de défendre nos valeurs. Et si on s'enfonce dans l'idéologie de la bonheurisation du monde en regardant son nombril et en disant « je vais faire le quiet quit, je travaille le moins possible, on va se faire bouffer littéralement par ces gens-là qui nous détestent.
Sans oublier quand même que c'est aussi un prétexte, parce que Poutine est quand même un fou dangereux, et qu'il est très content d'avoir trouvé...
Dangereux, oui.
Dangereux, oui.
Fou, non, hélas.
Et donc, il y a quand même ce prétexte des valeurs déclinantes, parce que c'est vrai qu'il y a tendance à dire qu'on est en train... Il y a une décadence de l'Occident qui est quand même assez réelle. Et donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans une justification.
70% des Français pensent qu'on est en déclin. Au fond, les thèmes popularisés par Zemmour, plus intelligemment évidemment par Alain Finkielkraut ou Michel Onfray, 70% des Français pensent qu'on est en déclin. Au fond, d'une certaine manière...
Oui, mais ils entretiennent ce déclin eux-mêmes. Parce que la responsabilité individuelle est terminée.
Par rapport à ce monde qui vient, qui sera terrifiant, on dit libéral, il sera totalitaire. Et il nous déteste. Eh bien, c'est pas en se regardant le nombril et en cherchant son bonheur personnel, en disant se sacrifier pour les autres est une très bonne... Enfin, les femmes iraniennes nous donnent une leçon merveilleuse.
Comment est-ce que toutes les femmes de France ne peuvent pas enlever leur voile ? Il faudrait demander, moi je lance un appel à toutes les femmes qui portent le voile,
de le retirer.
Par respect pour les femmes iraniennes, qu'elles l'enlèvent. Je veux dire, ce serait quelque chose...
Il se passe l'inverse, Sophie, exactement.
Je sais.
Vous êtes coupé une mèche de cheveux, vous, Sophie, ou pas encore ?
Non, parce que c'est un peu difficile et le coiffeur est contre.
Oui, puis
c'est
vous
un gadget, oui.
Écoutez, tout
parce
tout
que là. Non, c'est intéressant ce que vous
non,
dites.
Mais je
quand vous
critiquer.
Dites déclinant, on entend déclinant, on entend effectivement. Moi, il y a même
c'est
un
parce
un
que je pense
de...
moi.
Non, non, pas forcément. Bon, ça, c'est peut-être le mythe aussi du c'était mieux avant qu'on entend de génération en génération.
Oui, c'est pas du...
Mais
c'est
parce que je pense. Dans une civilisation, effectivement, on nous sent peut-être moins combatif, c'est-à-dire par rapport à justement des idéologies ou des régimes très forts, on a l'impression que finalement nous c'est le repli sur soi et moins
oui,
on fait
sur la quête du bonheur, oui bien sûr, la bonheurisation du
touchez
monde,
pas mon bonheur finalement.
Bien sûr, encore une fois, devenez narcissique et sauvez votre peau, c'est quand même le thème majeur de la psychologie positive. Il y a un livre de Christophe André qui me fait toujours pleurer de rire qui s'appelle Un parfait libre et heureux, dans lequel il dit l'idéal de la sagesse selon la psychologie positive et selon moi, dit-il, ce serait de parvenir à s'aimer comme on aime ses enfants. Mais le jour où je m'aimerai moi comme j'aime mes filles, c'est pas que je suis sage et heureux, c'est que je suis cinglé. Vous pouvez me mettre en hôpital psychiatrique. C'est pour moi, c'est la définition de la folie.
Oui, oui.
Je suis prêt à donner ma vie pour les filles, s'il le fallait, pour mes filles, évidemment. Bon. Et donc, voilà, ce repli sur soi, ce narcissisme effrayant est revendiqué comme tel. Hein. Devenez narcissique et sauvez votre peau. Bon. Foutez-vous la paix. Et donc, les titres des livres de Fabrice Midal. Et je veux dire, si on s'enfonce là-dedans face aux femmes iraniennes qui donnent leur vie pour une cause, et Dieu sait qu'elle est légitime cette cause. On est mort, mon ami.
Alors, qu'est-ce que l'entreprise...
On donnera raison à Poutine.
Alors, qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour éviter ce déclin? Est-ce que... Parce qu'après tout, tout le monde a un rôle. Il y a une responsabilité individuelle à laquelle je crois. Qu'est-ce que nous, on peut faire? On est des entreprises... Qu'est-ce qu'on peut faire?
L'affect, c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui est bon, c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre, mais non pas avec le bâton, si je puis dire, mais plutôt avec la carotte, qu'il va falloir travailler. Et donc que le travail, c'est un moyen d'épanouissement.
Oui, moi, j'ai regardé des carottes.
J'ai regardé la loi Warsmann. Bon, très bien, parfait. Mais j'ai regardé aussi les statistiques. Les personnes qui sont en télétravail plus de 3 jours par semaine sont horriblement malheureuses. Mmh. Elles tombent dans le sentiment de solitude. Le sentiment de solitude chez ces personnes, solitude mal vécue, je veux dire, c'est 20% de plus que chez ceux qui sont seulement en télétravail pour 2 jours, par exemple. Donc, le télétravail, oui, mais pas toute la semaine. C'est une catastrophe. Donc, il faut faire en sorte que les chefs d'entreprise, comprennent que leur boîte doit être un lieu de vie, doit être un lieu de, affectif aussi. C'est dans sa boîte qu'on rencontre ses amis, ses ennemis, ses amants,
son mari,
sa femme, etc. Et donc, que travailler aussi... c'est pour ça que moi, je suis à fond contre le RUB. C'est une catastrophe, le RUB, le revenu universel de base. Voilà. Le RUB, l'allocation universelle, c'est la catastrophe absolue. Plus la loi Warsmann, mais on est mort dans ce cas-là. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a une sociabilité du travail, qu'il y a une affectivité du travail, et que le travail, c'est aussi un moyen d'apprendre. Enfin, lisez le poème de Victor Hugo qui s'appelle « Je travaille ». C'est génial.
Quelques vers.
Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, mais malheureusement, c'est Beaux endormis que j'ai en tête. Il y a un poème de Victor Hugo qui s'appelle « Je travaille » et qui dit « Ça nous libère du terroir, ça nous libère de la méchanceté, ça nous libère de l'égoïsme et de l'erreur et de la bêtise. » Voilà, et donc le travail, c'est quand même le seul moyen qu'on ait inventé pour apprendre.
Alors, j'ai une question par rapport à ton livre.
Il s'est remis à travailler, il dit Victor Hugo. « Ami, je me remets à travailler, j'ai pris du papier sur ma table, une plume et j'ai écrit. » Alors vous êtes
la suite,
vous avez
est
pris
magnifique.
Votre livre.
Il dit qu'on est à la fois serf et libre, voilà.
Alors c'est magnifique, mais dans ce livre formidable, La vie heureuse, mais qui m'a beaucoup interpellée parce que c'est pas l'éternité du tout, compromis, mais c'est quand même un nombre d'années supplémentaires incroyable. Oui. Et d'abord, il y a deux questions que je me posais. Une qui n'a rien à voir avec le sujet, mais qui est à quel âge je m'arrête pour vieillir? Parce que quand je me projette à l'âge de 120 ans, ce qui est tout à fait possible.
On vivra demain 100 à 120 ans.
Plus que ça.
J'aurai quelle tête
que
et je m'arrête à quel moment? Alors ça, c'est la première question. La deuxième question est, évidemment, quand on projette cette possibilité que tu as décrite, est-ce qu'on va aussi continuer à travailler aussi longtemps?
Évidemment.
Et là, est-ce que l'ennui va pas être décuplé? Parce que les gens qui partent à la retraite aujourd'hui, en dehors du fait qu'ils peuvent être fatigués...
Le sujet pour les chefs d'entreprise, c'est le sens et le bien-être au travail. À partir du moment où on a un travail passionnant, je suis sûr que vous vous passionnez pour votre travail, je suis sûr que Sophie aussi, moi aussi, je travaille 10 heures par jour, mais c'est pour moi, si on m'arrêtait de travailler, je mourrais. Bon. Et donc, c'est parce que mon travail me passionne. Et le problème, c'est les travaux qui sont ennuyeux et peu valorisés. Donc, il faudra faire en sorte, évidemment, et ça c'est le grand sujet de l'affect en entreprise, de faire en sorte que le travail soit passionnant pour tout le monde autant qu'il est possible. Et ça, alors évidemment, c'est très difficile pour certains travaux que je ne vais pas évoquer parce que ce serait stigmatisant pour ceux qui les exercent. Mais il est évident que tous les travaux ne sont pas également intéressants ou passionnants. Il y a des gens qui ne travaillent que pour gagner leur vie. Donc c'est là qu'on a un vrai sujet. Mais bien sûr, c'est pas moi qui le montre, mais tous les laboratoires scientifiques dans le monde qui travaillent sur la reprogrammation cellulaire, depuis que le prix Nobel de biologie et de médecine 2012, Shinya Yamanaka, a réussi à inverser le processus du vieillissement cellulaire, savent que nos petits-enfants vivront 150 ans, mais pas vieux. On arrêtera le vieillissement, on retardera le vieillissement.
À quel âge?
Probablement qu'on pourra s'arrêter de vieillir à 40 ou 50 ans, ce qui est pas... Moi si j'avais pu m'arrêter...
C'est pas mal,
50 ans, c'est un bon âge, voilà.
Moi,
je suis en désaccord total avec un type, ce crétin qui disait que les femmes de 50 ans, il peut pas... Attends, moi, je les trouve sublimes. Voilà, et donc, je trouve que, s'arrêter... Et puis, c'est pareil pour les hommes, d'une certaine manière. S'arrêter à 55 ans ou 60 ans. Tu regardes des gens comme Yves Montand ou Belmondo, ils étaient beaucoup plus séduisants et plus beaux à 60 ans qu'à 20. Hein, voilà. Et donc,
comme toi.
Voilà.
Donc vous dites, il ne s'agit pas de rallonger.
De l'autre côté maintenant.
Il ne s'agit pas de rallonger la vieillesse pour fabriquer un peuple de gâteux en fauteuil roulant, mais d'allonger le temps de la jeunesse, la vie en bonne santé.
Sûr,
on pourra voilà, vaincre
bien
comme
sûr,
ça la maladie.
On va y arriver par deux moyens qui sont la reprogrammation cellulaire. Ouais. Je vous signale que Jeff Bezos, qui est quand même pas un imbécile, vient d'investir des centaines de millions de dollars dans une boîte qui est uniquement centrée sur la reprogrammation cellulaire. Et puis d'ici 3-4 ans, on aura des sénolytiques qui sont des molécules qui vont éliminer les cellules sénescentes dans le corps humain, qui sont des cellules qui ne meurent pas, mais qui ne se divisent plus et qui synthétisent autour d'elles, dans les tissus où elles sont enserrées, toutes les maladies de la sénescence, de la vieillesse, c'est-à-dire tout ce qui est inflammatoire, les rides, les cancers, la perte de masse musculaire, etc. Et donc, tout ça, c'est dans les 10 ans qui viennent que ça va se...
Alors, est-ce qu'on sera plus heureux pour autant ?
Le bonheur, je m'en fous, ça m'a jamais intéressé.
D'accord.
Je pense que c'est une idée stupide. Tout le monde cherche à être heureux plutôt que malheureux, c'est pas le sujet. Mais l'idée que vend la psychologie positive, qu'on arriverait au bonheur comme on arrive à un port après une tempête pour l'éternité, parce que le bonheur ne dépend que de nous, est une idée absurde. C'est une idée débile.
Il y a une expression d'ailleurs, une expression qui m'exaspère, c'est que du bonheur.
Wow.
Ah, il y a énormément de jeunes, c'était à la mode, c'est que du bonheur. Et je veux dire que c'est vraiment galvauder le bonheur. C'est le mettre là où il n'est pas. Et donc, c'est grave.
On peut être heureux par moment, mais ça dépend des autres. Si vous avez des enfants et que vous les aimez, vous savez très bien que s'ils sont malheureux, vous ne pouvez pas être heureux, par exemple. Donc, le bonheur dépend à 99% des autres, sauf si vous devenez narcissique, comme le recommande Fabrice Midal. C'est pour ça qu'il recommande ça.
Bon, en tout cas, on a
et
compris
aussi
qu'on ne lit pas...
La vie monacale, monastique.
Oui.
On recommande votre livre, Luc Ferry, dernier livre, La vie heureuse, sagesse ancienne et spirituelle laïque, de l'immortalité promise à la longévité réelle, c'est aux éditions de l'Observatoire.
Merci, jeune homme.
Un grand merci d'être passé par notre plateau.
Et merci à Sophie, surtout.
Et Sophie de Menton, pour
ton attention. Merci à celui qui donne du sens.
Voilà, on continue dans un instant vers une entreprise Club Vacances, c'est dans un instant sur Radio Emu, Radio Territoria, et Cowork, la radio. À tout de suite.
Merci à vous.